bonjour à tous. Et ben oui, évidemment, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous entendez, ça résonne en tout cas derrière moi parce que je suis au sein du nouveau centre de ressources historiques du sanctuaire qui est inauguré là, la veille des journées du patrimoine. Parce qu'on va vivre un grand week-end à Lourdes, un grand week-end où on va pouvoir mettre en valeur le patrimoine culturel du sanctuaire. Ça, c'est un patrimoine qui est assez méconnu. On a des invités exceptionnels avec nous. On a les conservateurs, les archivistes. On va rentrer un petit peu dans l'histoire de Lourdes et puis donner quelques nouvelles. Il y a plein de choses à vivre ce week-end à Lourdes, il faut rester à l'écoute. Alors je suis avec Robin Dupont. Bonjour Robin Dupont.
Bonjour David, vous allez bien ?
Très bien, bah avec vous je suis forcément en bonne compagnie. Vous êtes le conservateur du sanctuaire et puis je suis également avec Nicolas d'Argegène. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes archiviste, responsable des archives et des bibliothèques du sanctuaire de Lourdes.
Tout à fait.
On est ici dans un nouveau lieu qui va être inauguré tout à l'heure par le recteur du sanctuaire, le nouveau centre de ressources historiques. Alors pour ceux qui entendent derrière nous, on entend les cloches sonner de la basilique de l'Immaculée Conception parce qu'on nous sommes juste à côté de la basilique. La basilique, c'est celle qui est toute grande, toute élevée. À Lourdes, on aime l'appeler la basilique supérieure. On est juste au pied du chemin de croix des Espélugues, dans un lieu qui est nouveau. Robin Dupont, c'est un lieu où ici, on conserve les collections patrimoniales du sanctuaire.
C'est exactement ça. En fait, pour la première fois de l'histoire du sanctuaire, on se dote eh bien, d'un outil justement pour conserver le patrimoine mobilier, mais aussi les archives. Nicolas vous en parlera tout à l'heure. Donc c'est un outil très précieux parce que ça nous permet de garder, je dirais, de conserver, d'inventorier, mais aussi de communiquer sur le patrimoine du sanctuaire. Donc c'est un outil qui était devenu indispensable.
On va rentrer à l'intérieur, hein, vous allez nous le faire découvrir, en tout cas pour nos auditeurs, parce que bien, ce sont les journées du patrimoine qui s'ouvrent demain au sanctuaire de Lourdes, avec de nombreuses propositions, avec des visites guidées assez uniques. Ça, c'est l'occasion, hein, Nicolas d'Argegène, c'est quand même une occasion, ces journées du patrimoine, pour aller pousser les portes des lieux parfois méconnus.
Oui, tout à fait. On a prévu justement des visites. Alors, une visite du sanctuaire, une visite historique des lieux. Et ensuite, cette visite se dirigera vers le centre de ressources où nous présenterons quelques objets du mobilier liturgique, mais également des archives que l'on sort très, très rarement.
Très rarement. Ben voilà, c'est ça aussi. Il faut des occasions comme cela. Alors, c'est déjà, notez-le, hein, c'est samedi et dimanche, de départ à 10h et à 14h, avec une visite guidée des basiliques du sanctuaire. Elles sont trois. Ça, c'est assez unique dans un sanctuaire d'avoir trois basiliques. Alors, évidemment, la basilique de l'Immaculée Conception, on est juste à côté. En dessous, la basilique Notre-Dame du Rosaire et puis la basilique Saint-Pédis, immense basilique, une des plus grande du monde. Et puis ensuite, voilà, on entre et on découvre avec vous ce centre de ressources historiques. Robin Dupont et puis vous, Nicolas d'Argegène, vous avez deux métiers différents. D'abord, Robin Dupont, vous êtes conservateur. Qu'est-ce que vous conservez ici ?
Eh bien, comme son nom l'indique, ma mission, c'est de conserver. Ouais. Donc voilà, tout simplement, c'est assez simple, mais finalement, ma mission principale, donc c'est comme un conservateur, je dirais, habituel de conservateur national ou de collectivité territoriale, donc je conserve les objets en garantissant leur état. Mais aussi, nous, on a une particularité au sanctuaire de Lourdes, c'est que notre patrimoine, il est vivant.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je veux dire par là que, c'est-à-dire que tous les objets que nous possédons dans nos sacristies, dans nos salles de conservation, eh bien, ils peuvent potentiellement être utilisés pour le culte, grandes célébrations.
Un exemple ?
Par exemple, le grand ostensoir de Gucci, que vous pourrez voir dans l'exposition Gucci, qui est concomitante aux journées du patrimoine, eh bien, cet objet peut être utilisé, par exemple, pour les messes internationales. Donc, il y a des sacristains qui viennent les chercher dans nos salles de conservation. On fait des fiches d'état, des fiches de mouvement, et on les prête, et ils nous les rendent, et nous, on essaye de les garder en état. Alors, évidemment, c'est sur la demande des autorités pastorales. Et donc, c'est vrai que peut se poser la question, je dirais, de la détérioration des objets, mais finalement, nous partons du principe qu'un objet qui est au sanctuaire, a été offert par les pèlerins, en ex voto oui. ou autre.
Ça, c'est important. Si on peut s'arrêter un instant là-dessus, c'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup de collections dans ce centre de ressources historiques. On va parler de vêtements liturgiques, on va parler d'orfèvrerie sacrée, on va parler de textiles précieux, de bannières, de processions. Et en tout cas, ce sont donc cette famille des ex voto, ce sont des offrandes, ce sont des cadeaux, en fait, qui ont été faits au sanctuaire dans l'histoire.
Ben, un ex voto, c'est une demande de grâce à la Vierge Marie ou alors le remerciement d'une grâce obtenue. Donc finalement, tout peut être ex voto. Ça peut être, par exemple, des casques de vélo suite à un accident. Ça peut être des objets très précieux, des œuvres d'art, des objets de culte qui sont mis à la disposition du culte à la grotte ou dans une des basiliques. Et donc, cela pratiquement depuis les apparitions. Par exemple, je peux vous donner un exemple très, très concret. Nous possédons l'une des collections de bannières de procession les plus importantes au monde, si ce n'est la plus grande. C'est-à-dire qu'à partir de 1872, notre évêque de l'époque a demandé à ce que tous les diocèses de France viennent porter en procession une bannière de leur paroisse, de leur communauté, etc. Donc, maintenant, nous avons une collection de plus de 300 bannières.
Donc elles sont là, elles sont à côté de
elles
nous.
Elles sont conservées dans le nouveau centre de ressources historiques.
C'est ça, en fait, pour vous décrire quand même ce lieu qui résonne, c'est un immense lieu, c'est une chapelle qui a été transformée avec beaucoup de rayonnage, on voit des objets en tout genre, on voit des statues, des cadres, des lustres anciens, et vraiment au fond, c'est ça, on voit ces grands plateaux, donc à plat sont
des lits, en quelque sorte.
Donc sont conditionnés là les bannières de procession. Pour ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand on fait une procession, c'est ça, on tient...
Voilà, elle précède les processions.
Un grand étendard, exactement, comme ça, pour ouvrir la voie. Nicolas d'Argegène, vous qui êtes archiviste, les processions de Lourdes, ça ferait vraiment partie de... pas seulement de l'histoire du sanctuaire, c'est aussi de son quotidien. Quelle place, en fait, tiennent les processions à Lourdes ?
Les processions, elles sont quotidiennes à Lourdes, donc la procession du Saint-Sacrement, puis la procession mariale le soir. Elles existent depuis toujours, c'est peut-être une des particularités les plus connues de Lourdes, surtout la procession au flambeau. Donc nous, on en trouve des traces dans les archives depuis le début quasiment des apparitions. Finalement, le phénomène des processions a été créé spontanément par les gens qui descendaient depuis la ville jusqu'à la grotte en procession. Et au fur et à mesure, elles ont été officialisées, organisées, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui.
Il y a également une actualité qui est proche également de Lourdes, c'est cette candidature pour faire reconnaître au patrimoine culturel immatériel les processions de Lourdes. C'est un travail que vous avez mené ensemble. C'est quoi ? Vous avez fait une candidature, c'est ça ?
Alors, c'est un très très long processus,
oui,
qui est mené avec l'Université de Pau notamment, avec des ethnologues, avec la DRAC Occitanie. Et l'étape que nous essayons de remplir actuellement, c'est l'inscription au patrimoine culturel immatériel de la France. Donc ça demande évidemment de compulser beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, beaucoup d'informations historiques. C'est un véritable travail, je dirais presque, d'historien, d'archiviste. C'est très concret. Ça, beaucoup de personnes entrent, je dirais, dans ce processus. Et on a un comité scientifique, et j'en profite justement pour remercier quelques personnes.
Oui, tout allez-y, d'abord, citez-les.
Voilà. Par exemple, Nathalie Poux de la DRAC, Rémi Berdou, Patricia Castéré, qui sont des ethnologues de l'Université de Pau, sont des personnes très importantes qui sont, eux, je dirais un peu les chefs de projet aussi avec nous de ce comité scientifique. Et aussi, évidemment, Anaïs Bucciarella, qui est une jeune étudiante qui a monté sa société, Patrice Pot, qui, elle, justement, rédige définitivement, je dirais, le document pour le transmettre à l'organisme qui est chargé de nous inscrire à ce patrimoine culturel immatériel de la France. Et on est en phase, finale de cette rédaction, puisque c'est dans les quelques jours qui viennent que le dossier sera rendu.
Est-ce que, Nicolas d'Argegène, est-ce que le sanctuaire a ses chances pour être inscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de la France avec les processions ?
Alors, Ça, la décision ne nous appartient pas. Nous, personnellement, on peut le penser.
Vous y croyez.
On y croit. On y croit parce que c'est un processus qui a commencé il y a 2 ans. C'est un dossier qui est très, très long, comme disait Robin. Depuis 2 ans, on a interrogé des gens pour savoir ce que les processions représentaient pour eux. Il a fallu creuser pour savoir les origines, voilà, puis savoir ce que les processions, à quoi elles correspondent pour le pèlerin qui vient, qu'il soit pèlerin en groupe, qu'il soit isolé. On a fait des enquêtes, on a quasiment une centaine de témoignages de gens qui nous expliquent pourquoi les processions ont une importance.
Pour vous, ça a été finalement un travail aussi un peu de grand écart entre voir les processions dans l'histoire et puis les processions aujourd'hui. Comment vous avez fait ? Parce que finalement, dans ces murs où nous sommes, il y a des trésors, il y a des tiroirs partout, il y a des livres sur toutes les étagères. Comment vous y êtes pris ?
Alors finalement, nous, les processions, je dirais qu'elles nous accompagnent dans notre travail au quotidien, même avant que soit décidée la mise en place ou la candidature du sanctuaire pour cette procession mariale. Je vous le dis, par exemple, on travaille en étroite collaboration notamment, et c'est aussi l'occasion de les remercier, avec le service liturgie, avec le service des bénévoles.
Du sanctuaire.
Du sanctuaire, bien sûr. Le service sécurité, les feutiers, etc. En fait, tout le sanctuaire est partie prenante dans ce projet, plus ou moins, je dirais, plus ou moins directement.
Parce que finalement, tout le monde est impliqué dans la vie
exactement,
de la procession,
c'est ça ? Exactement, tout le monde est impliqué. Et quand je vous dis que ces processions nous accompagnent, on parlait tout à l'heure des bannières, eh bien les bannières, c'est, je dirais, le symbole visible de ces processions. On a tous l'image d'Épinal, de ces grands lacets de lumière que nous voyons sur les cartes postales.
Oui, formés par les flambeaux des pèlerins.
Eh bien, je dirais, si tout s'éteignait, eh bien, il resterait les bannières, c'est ce que je veux dire.
Et ces bannières, elles sont là, elles sont juste à côté de nous, elles sont entreposées. Alors évidemment, on n'a pas le temps de cette émission de pouvoir toutes les découvrir, mais peut-être quelques mots, dites-nous.
Mais alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué le pèlerinage national des bannières qui s'est déroulé en octobre 1872, eh bien, donc plus de 300 bannières ont été données en 3 jours au sanctuaire, et en quelques mois, elles ont toutes été suspendues sous les voûtes de la basilique de l'Immaculée Conception. Elles ont seulement été décrochées, voilà, le terme est simple, décrochées des voûtes en 2000. Alors, ce qui est amusant, c'est que de ces 300 bannières de procession, il ne nous en reste aujourd'hui que une quinzaine, approximativement. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y en avait 300 ?
Oui, vous avez dit 300,
parce qu'en fait, tout simplement que régulièrement, eh bien depuis le don de la première bannière, eh bien, on nous donne régulièrement des bannières de procession, et c'est un peu miraculeux, mais on a toujours bannières. C'est les vases communicants, vous voyez, on a toujours 300 bannières dans nos collections. Alors, pour vous donner un petit cadre historique, par exemple, la première bannière de procession qui nous a été versée au sanctuaire, eh bien, c'est la Loubajac, qui date de 1864.
Alors, Loubajac, pour nos auditeurs.
C'est un petit village qui a quelques pas de... mais qui était finalement à cette époque assez loin, d'une certaine manière.
À quelques pas de la grotte,
voilà,
de Lourdes.
Pas de la grotte. Ensuite, nous avons Poix et Ferré, et on a encore ces deux bannières.
Donc ça, ce sont déjà les premiers, en tout cas,
exactement,
pèlerinages qui se sont organisés vers Lourdes. Évidemment, ce village de Loubajac à Lourdes, il est connu parce que c'est aussi le village de Catherine Latapie qui est la première miraculée de Lourdes.
Et après, progressivement, mais en fait, finalement... progressivement, les pèlerinages se sont étendus, mais aussi grâce, je dirais, à l'évolution des réseaux de communication, aux voies de circulation, comme par exemple l'apparition de la gare et puis du réseau ferroviaire autour de Lourdes. Et ensuite, donc après 1864, Loubajac et Poix-Ferré, eh bien nous avons par exemple la bannière de Notre-Dame de Bayonne. Voyez.
En préparant cette émission, vous m'avez montré une bannière, je crois, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais vous me corrigerez, début du 19e, mais peut-être pas, qui vient de Chine en fait.
Donc, on a une bannière, on a plusieurs bannières de Shanghai. Alors généralement, ces bannières, elles sont données aussi dans le contexte d'un événement. Par exemple, la bannière de Chine qui date de 1901.
À 1901, voilà.
Voilà, 1901. Eh bien, c'est suite à un typhon qui a décimé une grande partie de la population autour de Shanghai, et des sœurs d'un couvent, eh bien, ont prié juste avant le typhon une statue de Notre-Dame de Lourdes qu'elles avaient dans leur couvent, et elles ont été préservées de ce typhon. Donc on a quelques mandarins, quelques années après, qui nous ont amené cette bannière. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Si à l'occasion, si vous venez aux Journées du patrimoine, je pourrais vous la présenter parce qu'elle est dans la Grande Sacristie. Et c'est exceptionnel. La Grande Sacristie est fermée au public, je le rappelle. Et donc, cette bannière, vous pourrez la voir. Et dessus, on a la représentation de cette scène de ces quelques mandarins qui viennent à la grotte porter cette bannière. C'est assez étonnant.
C'est quand même incroyable, Nicolas d'Argegène, de se dire, ben voilà, ce plongeon dans l'histoire, imaginez que ces mandarins, de ces Chinois qui sont venus en tout cas jusqu'à Lourdes, dans les archives du sanctuaire, là aussi, il y a de nombreux trésors. Quelle pièce peut-être exceptionnelle avez-vous dans vos collections ?
Alors nous, dans nos collections, en fait, dans les archives, on conserve la mémoire du sanctuaire depuis le début. On a des documents très très précieux, des documents émouvants. On a des écrits de Bernadette, on a son acte de baptême, on a le fameux carnet du commissaire Jacomet, dans lequel il prenait ses notes pendant les interrogatoires de Bernadette. On a vraiment toute l'histoire du sanctuaire depuis les apparitions, et tous les jours, on s'émerveille parce que l'on découvre dans les archives qui permettent justement d'expliquer tout ce qui s'est passé à ce moment-là, d'expliquer les processions dont parlait Robin, les certains dons. On a des documents en lien avec ces dons-là. Donc on a, en fait, ce centre de ressources dont on parle, c'est vraiment on parle de ressources parce qu'on a l'impression que tout est enfoui, prêt à jaillir pour pouvoir expliquer, pour pouvoir montrer, raconter ce qui s'est passé au sanctuaire.
Alors évidemment, on va entrer un peu plus davantage à l'intérieur des collections, puis vous nous direz comment on conserve, on valorise et on diffuse, parce que je crois que le but, c'est quand même de transmettre aux générations. On ne garde pas ça sur les étagères. Pourquoi était-il nécessaire de construire, ou en tout cas d'adapter, de rénover, de transformer ces anciennes chapelles du sanctuaire en centre de ressources historiques?
Alors, Dupont. La première volonté, c'était celle de Mgr Mika et de Guillaume de Vulpian, c'est-à-dire que on avait un problème au sanctuaire, c'est que nos espaces de conservation étaient un peu éparpillés sur l'ensemble du domaine. Donc vous imaginez bien 53 hectares.
Pourquoi éparpillés ?
Eh bien, tout simplement, on cherchait des lieux de stockage, on s'est adapté aux espaces libres, tout simplement, et on n'avait pas d'espace centralisé pour, même si évidemment on a un service des archives et du patrimoine avec notre grande sacristie qui accueille les vêtements liturgiques les plus précieux, eh bien, on avait quand même un espace, un pôle principal, mais nos espaces de conservation étaient éparpillés sur l'ensemble du domaine. Donc, c'est ce qui a aussi motivé la direction de rationaliser les espaces de conservation pour en faire, un lieu fonctionnel au centre des basiliques. C'est aussi le point fort de notre centre de ressources, c'est que nous nous trouvons à proximité immédiate de la basilique de l'Immaculée Conception, du Rosaire, mais aussi de la grotte. C'est-à-dire que nous pouvons accéder à ces différentes basiliques, aux sacristies, sans même passer par les voies extérieures du sanctuaire, c'est-à-dire des questions de sécurité du patrimoine, c'est fondamental.
Pour trahir aucun secret, il y a un passage souterrain.
il y a un passage
secret, voilà, qui amène, ce centre est aussi dans le prolongement de la maison des chapelains, et il restera évidemment secret. On est vraiment dans les secrets avec vous. Conserver des collections nécessite également des conditions de conservation.
Alors la rationalisation, Nicolas pourra en dire plus, mais si la rationalisation... Donc si la rationalisation des espaces de conservation était, un élément moteur, moi en tant que conservateur, je pense que pour Nicolas c'est la même chose, l'élément le plus important, c'est les conditions climatiques. C'est-à-dire que nous, avec cet espace ce centre de ressources historiques, nous pouvons garantir une conservation, qui respecte le vademecum de la conservation préventive établie par la Réunion des musées nationaux. C'est-à-dire, par exemple, alors nous, on prend comme référence les textiles, parce que les textiles, ce sont les objets les plus fragiles. Donc, quand les textiles sont conservés dans les conditions climatiques optimales, le reste, ça ne pose pas de problème.
Il faut faire la chasse à l'humidité.
Voilà. C'est exactement ça. Conditions climatiques, c'est-à-dire l'hygrométrie, la température, la stabilité sismique aussi. Ça, parce qu'on est quand même on est dans une zone.
Ça, c'est un peu moins
perturbée.
Gagné à Lourdes quand même, près des
Pyrénées.
Voilà,
mais nous, en fait, ce qu'on garantit en température, c'est 20 degrés, avec plus ou moins 1 degré de variation.
D'accord.
Pour l'hygrométrie, c'est 50%, avec aussi plus ou moins 1 degré de variation acceptée. Alors, ça, c'est évidemment la situation optimale et rêvée pour tout conservateur et archiviste. Mais nous, on se contente d'une chose qui est peut-être fondamentalement la plus importante, c'est la stabilité climatique. Je veux dire par là que finalement, qu'il y ait une température un peu trop importante et une hygrométrie un peu trop importante, ce n'est pas le plus dramatique. Nous, ce qu'on souhaite garantir, c'est la stabilité. Ce qu'on veut, c'est que le taux d'hygrométrie et la température soient systématiquement la même.
Si c'est
le choc climatique, en fait, le problème.
Ah, c'est ça. Oui. Si ces conditions n'étaient pas réunies, qu'est-ce qui pourrait s'altérer ?
On peut tout perdre.
C'est-à-dire ?
Alors, par exemple, les bannières de procession, elles ont été retirées aussi pour cette raison, pour ces problèmes de
conditions climatiques. Elles ont été décrochées à l'époque de la basilique de l'Immaculée Conception.
Ben, je pense que vous avez peut-être tous des vêtements en soie ou des tissus en soie chez vous.
Ah non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de vêtements en soie. Peut-être vous, Nicolas d'Argegène, je ne sais pas.
Voilà, bon. Bon, alors, je vais vous expliquer. Bien, le problème de la soie et ces bannières, surtout les bannières début 20e et fin 19e, sont toutes en soie et en fil d'or ou argent, pierreries, éventuellement des panneaux en huile sur toile. Et malheureusement, avec les chocs climatiques, eh bien, la soie, elle sèche. Elle sèche et elle part en miettes, elle s'effrite.
Ah ouais.
Donc, on les perdait toutes inexorablement.
Ah oui.
Et aussi, la fibre se détache. Et aussi, les fils d'or et d'argent s'oxydent. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ces fibres aussi se dilatent, se rétractent avec les changements de température. Donc en fait, on perdait les bannières. Et à une certaine époque, surtout à la fin du 19e siècle, eh bien, les bannières tombaient sur les chapelles de lumière, sur les grands chandeliers. Parce qu'à l'époque, évidemment, on n'était pas, les chapelles n'étaient pas électrifiées pour la lumière.
Ah oui, on éclairait.
Voilà, donc tout ça pouvait provoquer des incendies. Et là, en 2000, eh bien, les bannières commençaient vraiment à s'altérer. Donc il a été décidé de toutes les retirer. Et le problème, c'est que ces bannières ne peuvent pas être restaurées, ou alors c'est extrêmement compliqué, parce que finalement, restaurer la soie, c'est très difficile, ou alors il faut la changer. Évidemment, si vous changez la soie sur une bannière, eh bien, vous changez toute la bannière.
Oui, c'est ça.
Donc, on essaye de les garder en l'état, même si elles sont en mauvais état.
Nicolas d'Argegène, vous, pour les archives, il y a aussi un risque d'altérer les conditions, les collections, pardon, si on n'a pas réuni les conditions de conservation.
Oui, tout à fait. Ce que disait Robin, le choc climatique est très mauvais, c'est-à-dire une pièce qui passe de 14 degrés l'hiver à 35 l'été, c'est très mauvais pour les papiers. Les papiers du 19e sont des papiers qui s'abîment très très vite. Les encres commencent à percer le papier, à se trouer très très vite. Donc c'est pour ça qu'il fallait avoir des conditions climatiques idéales. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant à conserver nos papiers grâce à ces conditions-là.
Vos papiers, vous allez nous les faire découvrir, mais vous en avez des kilomètres de papiers. Ouais. Quelles sont à peu près les grandes parties de la collection d'archives du sanctuaire et des bibliothèques ?
Il y a une bibliothèque mariale et historique, donc qui est consacrée à la théologie mariale, donc la mariologie. C'est une des quatre seules au monde. Il y en a une aux États-Unis, une en Italie, une en Espagne et la nôtre. C'est une bibliothèque qui est créée grâce à un partenariat avec l'ASFEM, la Société française d'études mariales. Donc on a à peu près 17 000 titres d'ouvrages consacrés à la Sainte Vierge dans la bibliothèque. Et ensuite, au niveau des archives, on a à peu près 1,5 km d'archives. Si on mettait les archives bout à bout, on arrive à peu près à 1,5 km.
Oui.
Voilà, c'est parce qu'on a, en plus des archives historiques, on a les archives actuelles. Donc ça peut être de la comptabilité, les registres du personnel, les choses comme ça, qui sont un peu moins... qu'il faut un peu moins rêver que les archives historiques, mais qui sont nécessaires.
Et oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi quand même il y a des lois en fait aussi à respecter dans les archives. Il faut quand même, alors je ne sais pas si ça concerne la comptabilité, mais en tout cas sur le plan juridique aussi, l'archivage est important.
Voilà, tout est réglé parce qu'on est comme une entreprise, les sanctuaires, donc on est régi par des lois où il faut conserver un certain nombre d'années les documents pour pouvoir prouver des choses s'il y a besoin, que ce soit des documents juridiques, comptables ou autres. Il y a aussi des lois qui permettent de ne pas les communiquer de suite. On ne peut pas donner un dossier du personnel à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc tout ça est régi par des lois nationales, en fait.
Donc de la confidentialité, de la compétence. C'est vrai qu'on découvre hein, aussi vos métiers, qui sont aussi des métiers avec une forte technicité.
Oui, c'est des métiers passionnants, mais qui sont cachés, en fait. On ne se rend pas compte. Quand on fait visiter les archives ou la conservation, les gens sont toujours étonnés de voir que ce genre de métier existe, en fait. On nous demande s'il y a vraiment des études, si on a vraiment un métier. Enfin,
alors, est-ce qu'il y a vraiment des études ?
Il y a des études et un vrai métier.
Et vous avez aussi...
Et
vous êtes de vrais professionnels. C'est vraiment une chance et un privilège hein, de pouvoir être là avec vous dans les collections. Robin Dupont, alors on va bientôt entendre le journal, mais on a encore une petite minute ensemble. On est quand même dans les travaux encore. Hein. Moi, je vois là, autour de moi, il y a encore un peu de placo, etc. Tout le travail n'est pas terminé. Non, qu'est-ce qui reste encore à faire dans le centre d'Orsay?
On va dire que on s'est calé on s'est calé aux journées du patrimoine pour présenter au public la première phase de travaux. C'est-à-dire que toute l'aile patrimoine est terminée. On a le sas de désinfection qui est encore un petit peu en travaux.
Le sas de désinfection.
Alors voilà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les critères que nous avons demandé à Isabelle Fauconnier, la responsable des travaux, que je remercie aussi, j'en profite, on lui a demandé aussi, que ce soit pour les archives ou pour le patrimoine, pour la conservation, d'avoir un sas de désinfection, c'est-à-dire que tout objet qui transite de l'extérieur aux espaces de conservation, ils doivent être décontaminés. Donc pour cela, on a besoin d'une salle qui nous permette de dépoussiérer les objets, de les nettoyer, mais aussi de les inventorier. Et ensuite, après, on peut les intégrer aux collections et les conditionner.
J'ai une question très bête. Ça veut dire que s'il y a une mythe qui est coincée...
C'est une catastrophe.
Ah oui.
Donc c'est pour ça qu'on a un sas de désinfection.
Ah oui, c'est ça.
Des aspirateurs de conservation, on a des produits de nettoyage adapté. Ça fait partie c'est une partie importante de notre travail.
Ça veut dire aussi une certaine vigilance aussi sur les collections, c'est-à-dire qu'il faut les regarder aussi.
Exactement.
Il y a des périodes.
Il y a des objets plus sensibles que d'autres qui ont tendance à attirer les insectes, comme les textiles, par exemple.
Donc la boule à mythe, c'est ce
la
qu'il y a
boule à... Alors ne c'est pas des boules à mythe. C'est pas des boules à mythe. On en a fini avec le cèdre, mais nous c'est des papiers anti-mythes, tout simplement, comme vous pouvez le trouver dans le commerce.
On est vraiment ici dans la découverte de son centre de ressources. On marque une pause et puis on va se retrouver juste après pour encore gratter et fouiller un peu ces archives du sanctuaire de Lourdes. Eh bien oui, on est toujours au centre de ressources historiques du sanctuaire de Lourdes. Je suis avec Robin Dupont, qui est conservateur du sanctuaire. Ça va toujours, Robin ?
Bah,
très bien, moi je vais en votre compagnie, je vais toujours bien, et puis aussi avec celle de Nicolas d'Argegène. Ça va toujours, Nicolas ?
Toujours.
Vous êtes archiviste du sanctuaire, évidemment, on l'a entendu, il y en a des propositions pour les journées européennes du patrimoine. Nous avons un département et un sud-ouest très riche en histoire, mais vraiment aujourd'hui c'est le focus sur le sanctuaire, avec ce magnifique programme qui est proposé ce week-end, avec des visites guidées des trois basiliques qui forment le sanctuaire, et puis aussi c'est assez unique et assez rare, eh bien, le Centre de ressources historiques, le service des archives et du patrimoine ouvre ses portes, ouvre ses placards, ouvre ses tiroirs. Il y a plein de trésors au sanctuaire. On est là pour le découvrir ensemble avec le conservateur, avec les archivistes. Alors c'est pour ça que ça résonne un petit peu, parce qu'on est vraiment là au cœur des collections. Nicolas Dargegène, on a évidemment parlé des archives, des lettres que vous détenez. Vous avez notamment des lettres de Bernadette Soubirousse elle-même.
Oui, tout à fait. Nous conservons une quinzaine de lettres écrites par Bernadette qui sont arrivées par différents biais aux archives. La plus grosse partie des lettres est bien entendu à Nevers, mais nous avons la chance d'avoir quelques lettres de Bernadette qu'elle a écrites à l'abbé Péramal, qu'elle a écrit à l'abbé Paumion, à Monseigneur Laurence, au Père Saint-Pé, à sa famille, que l'on conserve précieusement dans nos collections.
Il y a évidemment la préservation, on en a parlé, il y a aussi la valorisation du patrimoine, du sanctuaire, et en collaboration avec la radio, Radio Présence, vous avez produit une série de podcasts.
Voilà, on a enregistré, en fait on va présenter bientôt une exposition virtuelle des lettres donc sur internet, et pour cela on a enregistré, enfin on a fait demander à une dame de nous lire, on peut la citer,
Marcel Ladouce ça, oui.
qui a enregistré les lettres de Bernadette. Donc on a ces lettres là qui sont disponibles sur le podcast du sanctuaire.
Elle parle de quoi, ces lettres?
Alors, des lettres, c'est Bernadette qui écrit à ses proches. Donc, elle peut parler un peu de la pluie et du beau temps. Elle parle des problèmes de son frère qui était pensionnaire. Elle console une de ses amies qui est Rachel Dufault, qui avait perdu son mari et ses enfants. C'est des lettres dans lesquelles Bernadette s'incarne complètement et nous paraît complètement proche de ce que l'on peut vivre de nos jours aussi.
Vous avez sélectionné pour nous, pour cette émission spéciale, l'enregistrement d'une lettre.
Voilà.
C'est laquelle ?
C'est une lettre du 7 juin 1868 que Bernadette écrit au Père Saint-Pé, qui était donc le supérieur des chapelains. Et elle le remercie parce qu'il lui a envoyé le premier numéro des Annales de Notre-Dame de Lourdes. Donc elle le remercie. Elle lui parle également d'un tableau qu'elle a reçu représentant la grotte, où elle parle de la grotte en disant « ces lieux qui me sont toujours chers ». Ce tableau, il est conservé à Nevers. Donc on a une photo de ce tableau qui existe encore. Et Bernadette parle justement de ce tableau parce qu'elle trouve qu'il y a une erreur, parce que sur le tableau, on a représenté une sœur de Saint-Vincent de Paul. Et elle dit qu'il fallait que ce soit une sœur de Nevers.
C'était pas la bonne cornette.
C'était pas la bonne cornette, exactement.
C'est ça.
Mais en fait, le tableau était peint par un abbé qui s'appelait l'abbé Lambert, qui est celui qui a fait les croquis qui ont servi aux vitraux de la basilique de l'Immaculée Conception. Et ce prêtre avait une sœur qui était sœur de la charité de Saint-Vincent de Paul et qui a été guérie miraculeusement. Donc c'est pour ça qu'il avait représenté
une
raison. Cornette.
On propose d'écouter cet enregistrement de cette lettre de Bernadette au Père Saint-Pé.
Très bien.
Sainte Bernadette de Lourdes écrit à ses proches. Ces lettres font partie du trésor des archives du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Document original et authentique, redécouvert en 2025, ces échanges épistolaires de Bernadette sont pour la première fois exposés au grand public à travers une série de podcasts inédits.
Monsieur le supérieur, je suis vraiment confuse du retard que j'ai mis à répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et à vous remercier de la bonté que vous avez eue de m'envoyer le tableau représentant cette chère grotte et le premier numéro des Annales de Notre-Dame de Lourdes. Tout en me réjouissant de l'heureuse inspiration qu'a eue le peintre de faire le tableau de ces lieux qui me sont toujours chers, je regrette l'erreur qui s'y est glissée. Monsieur Lambert ignore sans doute que ce sont nos bonnes sœurs de la charité de Nevers qui ont toujours soigné les malades à l'hospice de Lourdes, et non les sœurs de Saint-Vincent de Paul qu'il a représentées dans son tableau. Les bonnes nouvelles que vous avez la bonté de me donner de mes parents, monsieur le supérieur, m'ont été très agréables. J'ai été surtout heureuse d'apprendre que mon frère se plaît à Notre-Dame de Garaison et qu'on est content de lui. Puisse Marie Immaculée le bénir et le protéger toujours. en vous renouvelant l'assurance de ma vive gratitude, permettez, monsieur le supérieur, que je me recommande à vos ferventes prières et à celles de tous vos zélés missionnaires. Je suis, avec le plus profond respect, monsieur le supérieur, votre bien humble petite servante, Sœur Marie Bernard Soubirous, Nevers, le 7 juin 1868.
C'est extrêmement émouvant d'entendre la lecture par Marcel Ladouce, une habitante de Lourdes, qui a une très belle voix d'ailleurs, et on la salue, de lire ces lettres authentiques de Bernadette. Est-ce que vous partagez toujours cette émotion ?
Oui, parce que justement, en travaillant sur les lettres, j'ai dû faire des recherches pour savoir de quels éléments elle parlait. Et c'est émouvant parce qu'on se rend compte que Bernadette a une foi tout ordinaire, a une vie ordinaire, et malgré ce qu'elle a vécu en 1858 quand même. Mais on se rend compte qu'elle est vraiment incarnée à travers ses lettres. Ça nous la rend vraiment proche de nous.
C'est ce travail de valorisation, vous en faites régulièrement. Robin Dupont, ça va également être le contenu aussi de ces journées du patrimoine, de pouvoir aussi valoriser aux yeux du public certaines pièces. On a parlé des bannières, oui, de procession, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce week-end ?
C'est assez exceptionnel, mais pour la deuxième fois, nous allons ouvrir au public la grande sacristie du sanctuaire qui est dans notre espace archive et conservation. Alors, il y a tellement de choses à voir. Je peux vous citer quelques exemples.
S'il
par
vous
exemple,
plaît.
Vous verrez, vous aurez l'occasion de voir les chasubles offertes par les papes, hein, par exemple, par Benoît XVI, par Jean-Paul II, mais aussi par des papes lorsqu'ils n'étaient pas encore papes, hein, comme par exemple Roncalli,
qui deviendra Jean
voilà,
23,
Monti, qui deviendra Paul VI. Et évidemment, ce sont des occasions de voir des objets qui ne sortent pas beaucoup de nos salles de conservation. Alors, il peut y avoir d'autres objets, par exemple. Ça peut aussi être des vêtements liturgiques offerts par des grandes familles royales. Par exemple, nous avons tout un ensemble, une paramantique offerte par la reine Astrid de Belgique. Cet ensemble a été offert pour l'ouverture du jubilé de la rédemption qui s'est déroulé à Lourdes. On est au tout début des années 1930. Donc c'est une très belle œuvre art déco, parce que c'est un peu notre particularité au sanctuaire. Comme nous avons des dons réguliers depuis pratiquement les apparitions jusqu'à maintenant, eh bien on peut suivre l'évolution de l'art, l'évolution stylistique, que ce soit dans l'orfèvrerie, dans la statuaire, mais aussi dans les vêtements liturgiques. Donc c'est pour ça qu'on attire aussi beaucoup d'étudiants qui viennent faire des sujets de recherche chez nous.
Ah oui, parce qu'on continue à faire
voilà,
des
exactement.
Recherches.
Voilà, exactement. Et justement, le Centre de ressources historiques sera un outil de travail très important avec des espaces justement de travail, des salles de lecture.
Nicolas Dargegens, vous qui êtes en responsabilité des archives, des bibliothèques, vous accompagnez beaucoup de chercheurs.
On a énormément de chercheurs, alors un peu moins qu'il y a quelques années parce que beaucoup de recherches se font maintenant par Internet, mais on a toujours des chercheurs qui viennent consulter les archives, alors des historiens, historiens de l'art, sociologues, médecins, différentes spécialités qui viennent toujours pour un travail universitaire, pour un ouvrage, pour même par curiosité personnelle. Et c'est vrai que Robin parlait d'une salle de lecture. On avait une salle de lecture qui était dans notre service, qui n'était pas accessible parce qu'elle était avec des escaliers.
Ah, et pas, là, accessible,
voilà,
oui, pour
voilà, pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Mmh. Et là, maintenant, grâce à ce nouveau centre de ressources, on a une salle de lecture ouverte au public et de plein pied.
On peut imaginer que quand un sociologue, un historien vient, il a certainement des questions assez poussées. Pour vous, c'est aussi un défi de pouvoir trouver la réponse qu'il
voilà.
se pose.
Nous, notre travail, ce n'est pas de donner la réponse, mais de savoir où la trouver.
Ah,
donc,
oui.
C'est une nuance, c'est-à-dire que l'historien va nous demander un point précis, on va lui donner les documents, et c'est à lui de chercher à l'intérieur des archives. Bien entendu, on aura... On va trouver le document le plus proche de ce qu'il recherche.
En préparant cette émission, vous m'avez parlé du biographe de l'abbé, du père Peyramale, le prêtre du temps de l'époque de Bernadette, hein, qui va recevoir ce message de Bernadette qui dit, bah oui, elle s'appelle, voilà son nom, c'est l'Immaculée Conception. Vous avez fait beaucoup de avec lui, beaucoup d'accompagnement.
Voilà, c'est Yves Chiron qui a publié une biographie de Peyramale il y a 3 ans maintenant, je pense, et qui est venu plusieurs fois consulter les écrits, les lettres de Peyramale. Bon, il a fait des recherches dans d'autres services d'archives un petit peu partout en France, mais il a passé quand même un certain temps à éplucher tout ce que l'on avait sur l'abbé Peyramale.
Il y a Robin Dupont aussi dans le monde de la conservation. On a parlé très rapidement d'orfèvrerie, mais oui, c'est quand même un point sur lequel il faut s'arrêter parce qu'il y a, le sanctuaire a une grande collection.
Oui, on a une immense collection d'objets d'orfèvrerie, de vases sacrés. Cette collection, je dirais, s'étend de la fin de la dernière moitié du 19e siècle jusqu'à maintenant, et l'ensemble a été expertisé par Bernard Berthaud, qui est le conservateur du musée de Fourvière, qui est vraiment le grand expert de l'orfèvrerie française, mais aussi étrangère. Cet ensemble est conservé dans nos collections, mais il est mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à disposition du culte. Donc c'est un élément important parce que nous sommes amenés à prêter des pièces d'orfèvrerie qui sont généralement dans tous les grands musées de France. Nous avons par exemple de l'Armand Caillat, du Pucelle-Russan, du Favier, du Mellériot, par exemple la couronne de France qui est au trésor, elle n'est pas dans la grande sacristie, mais elle est au trésor. Eh bien, c'est la maison Mellériot d'Himmeler qui l'a réalisée. On a le grand ostensoir réalisé par la maison Armand Caillat, etc., etc. Donc c'est aussi, alors à Lourdes, on a tendance, nous, à toujours dire qu'on est parmi les collections, si ce n'est la plus importante au monde, mais c'est une réalité, c'est pas nous qui le disons, c'est les experts. Hein.
Mais vous êtes riche.
Riche de patrimoine, riche de qualité, riche d'éléments historiques et de pièces exceptionnelles. Oui, ça, c'est la réalité.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, il faut aussi conserver, mais il faut assurer ces pièces.
C'est pas un problème, mais c'est évidemment un paramètre très important qu'on impute à nos budgets. Donc,
parce que c'est un coût,
voilà, c'est un coût
de sécuriser,
d'assurer
ça.
Mais on se doit de conserver, de protéger, même juridiquement, je dirais, bien toutes nos collections, hein, tout simplement. Parce qu'évidemment, en ce moment, on voit autour de nous des églises qui se font piller et nous, on ne peut pas se permettre de se faire voler les objets qui sont donnés par les pèlerins, tout simplement, parce que notre mission, c'est de leur rendre... en les proposant aux cérémonies. Donc
ça,
c'est important.
J'ai lu ça de vous. Vous dites le patrimoine de Lourdes, c'est le patrimoine des pèlerins.
Exactement.
Il s'est en fait constitué par ces cadeaux. Vous avez dit aussi une chose importante, c'est que donc ces pièces sont aussi des prêts pendant les célébrations.
Exactement.
Est-ce que c'est une erreur de dire que quand il y a une grande fête, on sort le service de grand-mère pour faire plaisir un peu à tout le monde, on va chercher des pièces, c'est ça?
C'est ça. Et c'est vrai que notre grande sacristie, c'est principalement des textiles anciens. Mais on a quand même fait un échantillonnage important d'objets parce que notre sacristie est une sacristie. C'est pas une salle de conservation, c'est aussi ça, mais c'est surtout une sacristie. Donc régulièrement, eh bien, les prêtres, comme par exemple le père Potchulu, responsable de la liturgie du sanctuaire, eh bien, nous demandent toutes les semaines de mettre à disposition des célébrations ou des messes des objets parfois extrêmement précieux, extrêmement précieux. Je ne parle jamais de chiffres, hein. Il faut savoir que quand on prête un objet, eh bien, ça met en marche aussi des questions d'assurance. Il faut faire aussi très attention. C'est pour ça qu'on a toute une procédure avec les sacristains de fiches de dépôt, de fiches de mouvement assignées par les parties, c'est-à-dire par moi à chaque fois, en tant que conservateur, et par les sacristains ou les responsables de la liturgie.
Ça vous arrive également de prêter des objets pour des expositions qui sont extérieures à Lourdes?
Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, il y a quelques temps, nous avons prêté une rose d'or pour une exposition qui a été réalisée à l'abbaye de Saint-Riquier, dans le Nord, en collaboration avec la DRAC de Picardie.
Une rose d'or, ça c'est un cadeau traditionnel
voilà,
des papes.
Voilà, il n'y a pas de fonction liturgique particulière, mais c'est un cadeau que les papes font dans les grands sanctuaires, c'est par tout. Exemple.
C'était quoi, une rose d'or de Jean-Paul II quand il est
alors,
venu à Lourdes?
Alors on en a une de Jean-Paul II, qui est la dernière donnée en date, mais nous on en a deux. Voilà,
ah oui,
c'est un peu notre particularité.
Il n'y a que des exceptions voilà. À Lourdes. C'est vrai qu'on est un peu dans l'exceptionnel avec vous. On parle évidemment d'artistes passés, mais il y a aussi des artistes contemporains. Vous avez fait le choix de faire aussi place à l'exposition, à la culture dans ce centre de ressources historiques. Nicolas Dargegène, pendant ces journées du patrimoine, il y a également une exposition qui s'appelle Gucci à Lourdes, cet orfèvre contemporain. Vraiment une grande signature de l'art sacré contemporaine, et c'est une exposition qui est organisée en lien avec l'association Le Toit du Cœur. Ça, ce sont des Lourdais.
Exactement. On a dans le centre de ressources, on a prévu une salle d'exposition avec des expositions temporaires, et la première, c'est donc une exposition consacrée à ce que Gucci a créé pour Lourdes.
Qui est Gucci?
Gucci, c'est un orfèvre contemporain qui crée encore, et donc qui a créé des œuvres, notamment pour Chartres, pour Conques, pour différents lieux. Et à Lourdes, Mgr Perrier lui avait demandé de créer, de réfléchir à la au nouveau cœur du rosaire qui a été inauguré donc en 2012, et pour ça il a créé un mobilier liturgique, il a créé l'autel, le tabernacle, le lambon. Ce sont des objets voilà, que l'on ne peut pas exposer dans notre centre d'expo parce qu'ils sont sur place. Donc pour cela, on a demandé à Laurent Etcheverry, qui est un photographe lourdais, de prendre des photos qui sont exceptionnelles, en noir et blanc, qui sont d'une beauté incroyable, où il a pris des détails, des objets que l'on ne peut pas déplacer. Et à côté de ça, on a trois vitrines dans lesquelles on a exposé les objets liturgiques que Gucci a créés, donc un grand ostensoir, un calice, les chandeliers qui sont sur l'autel du rosaire habituellement. C'est des objets que l'on voit habituellement sur l'autel du rosaire de loin, et là on peut s'en approcher et les voir à travers, dans ces vitrines.
On doit cette exposition à l'association Le Toit du Cœur, hein, on le sait, ce sont des Lourdais à l'initiative de l'abbé Jean-François Duhard qui se sont mis au chevet de l'église paroissiale du Sacré-Cœur dans le centre-ville de Lourdes parce qu'elle avait besoin d'être évidemment restaurée. Je crois que c'est 7 ou 8 ans de travaux, on le sait récemment, et on était présent avec Radio Présence pour couvrir la réouverture de cette église paroissiale et de la place qui est là. Aujourd'hui, la mission aussi du Toit du Cœur, c'est de pouvoir faire élargir et faire d'autres propositions plus culturelles. Donc avec cette exposition Gucci à Lourdes, et puis également dimanche, ça il faut le noter, 18h dimanche à la Basilique de l'Immaculée Conception, donc juste à côté de nous, il y aura un concert avec le Requiem de Mozart qui va être un petit peu réinventé pour l'occasion. Il y a une vraie richesse, en tout cas culturelle, de Lourdes. C'est finalement assez exceptionnel. Robin Dupont, vous qui baignez là-dedans, finalement, avoir un lieu d'exposition, une ouverture au monde de la culture, vous pensez que c'est nécessaire pour le sanctuaire de Lourdes?
C'était indispensable. Il faut savoir que on a déjà un programme culturel qui est déjà réfléchi. On peut peut-être en dévoiler. Par exemple, il va bientôt y avoir l'anniversaire du couronnement de Notre-Dame de Lourdes, couronnement de 1876. Donc, évidemment, la suite logique serait de présenter justement cet événement.
Voilà,
où on a d'ailleurs, par exemple, comme je vous l'ai dit juste avant, la couronne de France qui a été réalisée à cette occasion, des palmes aussi qui ont été offertes. Donc on a plein d'objets du patrimoine à faire découvrir aux pèlerins et aux visiteurs de Lourdes. Donc c'est un outil qui nous manquait. On avait quelques salles d'exposition. On s'adaptait, on va dire, à des salles pour en faire des salles d'exposition un peu partout dans le sanctuaire, près du centre d'information, à l'accueil. Mais ce n'était pas des outils, je dirais, entre guillemets, professionnels. Donc cette fois-ci, vous aurez des écrans, des vitrines adaptées. De quoi vous asseoir aussi. Donc c'est un outil parfaitement fonctionnel et extrêmement agréable. Vous verrez, les couleurs sont chaudes. Choisi par notre responsable, notamment, et de grande qualité.
Et en plus, vous êtes vous-même aussi agréable. Et oui, évidemment, parce que là où nous sommes, au sein du centre de ressources historiques, vu ici les kilomètres de rayonnage, non, les centaines de mètres, pardon, de rayonnage, on imagine évidemment qu'il y a plein de choses à découvrir. Et ce lieu d'exposition vous permettra évidemment de valoriser le patrimoine du sanctuaire. À côté de vous, Nicolas d'Archegène, vous avez une bande dessinée, parce que l'histoire aussi, elle est encore valorisée. Cette fois, cette bande dessinée s'appelle Lourdes, une histoire millénaire. Très, très belle couverture où on voit la basilique de l'Immaculée Conception, la grotte au temps des apparitions, on voit Bernadette. Et puis surtout, on voit un nom sur la couverture, c'est Stéphane Bern. Donc il y a une belle collaboration là du sanctuaire avec l'édition de cette bande dessinée. Là aussi, Nicolas d'Argegène, quand il faut avoir un regard d'expert, on vient vous chercher. Il ne faut pas faire d'anachronisme là, sur des produits comme ça.
Oui, tout à fait. On a eu à corriger ou à relire cette bande dessinée, à noter quelques petites choses à changer. Le travail était déjà fait, était énorme. Mais c'est vrai que voilà, il faut... les auteurs, quand ils sortent quelque chose, très souvent nous demandent d'avoir... un regard sur pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anachronisme, pas d'erreur. Là, il n'y avait pas non plus de choses incroyables à changer. Mais et puis voilà, comme c'est le sanctuaire est partenaire de cette édition, il fallait aussi que l'on puisse valider le contenu.
Voilà, Lourdes, une histoire millénaire, c'est aux éditions Plein Vent, partenariat avec le sanctuaire. C'est scénarisé par Yvon Bertorello avec les dessins de Steffel, de Federico Volante, avec évidemment la participation de Stéphane Bern. Mais oui, évidemment, il faut être précis là, et donc on appelle évidemment à votre professionnalisme, à vos connaissances. Robin Dupont, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre mission à Lourdes conservateur ?
Alors déjà, il faut savoir que j'ai une chance considérable, c'est peut-être un peu primaire, mais c'est important, c'est de travailler dans un domaine où j'ai étudié. Ouais. Ce qui est quand même quelque chose dans mon domaine, c'est quand même pas évident, parce que on sait que l'histoire de l'art, c'est un domaine qui est un peu, je dirais, un peu compliqué au niveau national. Mais évidemment, nous, on travaille au service de la Vierge Marie au quotidien. Donc, on est au plus proche d'elle. Vous savez, depuis quelques mois, j'ai par exemple un objet extrêmement intéressant. J'ai le rocher qui a été délogé pour faire la place à la statue qui est actuellement dans la cavité principale de la grotte, c'est-à-dire la statue de Fabiche. Eh bien, le rocher qui a accueilli l'apparition, eh bien... si vous venez aux journées du patrimoine, eh bien, je vous montrerai.
On peut voir ça.
Voilà.
Ah, ça
c'est une relique extrêmement importante et qui n'a jamais été présentée au public. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel.
C'est magnifique de nous partager ça. Nicolas d'Argegène, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre métier ?
Alors, comme disait Robin, en fait, nous, notre employeur, c'est la Sainte Vierge. Donc on est heureux de travailler pour elle. Et puis on a des petites joies, des... Moi, il m'est arrivé de montrer des archives à un chercheur et de le voir fondre en larmes parce que ça lui rappelait des souvenirs, ça lui rappelait une personne qu'il avait beaucoup, beaucoup aimée. Et dans ces cas-là, on est heureux, pas de le voir pleurer, mais de savoir que ce que l'on a fait sert à rendre quelqu'un d'heureux.
Au sanctuaire, il y a vraiment de la compétence, de l'émotion, du goût pour l'art, et puis vraiment un souhait aussi de transmettre. Merci beaucoup d'avoir nous avoir permis d'ouvrir les portes aux collections du sanctuaire, et donc on ne peut évidemment que recommander le programme spécial du sanctuaire pour découvrir ces journées du patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.